Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Evelyne et Gabriel font un podcast. Cet épisode est commandité par Eros et compagnie. D'ailleurs, on vous invite à aller sur leur site internet et utiliser le code HISTOIRE15 pour tous vos achats coquins et vous aurez un magnifique rabais. Evelyne Ferron, bonjour!
Bonjour Gabriel Caron! Très formel.
Evelyne, aujourd'hui, on a un sujet qui est un peu différent. Tu sais, par le passé, on a fait vraiment des événements précis ou des personnages.
Des personnages, on en fait beaucoup.
Aujourd'hui, on a une thématique at large qui est les incendies.
Mm-hmm. Mais c'est toi qui as proposé ça et je me suis dit, bon, elle a peur des fantômes, elle doit avoir peur des incendies. Puis là, elle s'est dit, oh mon Dieu, si ma maison prend feu, puis c'est ça qui t'a inspiré le sujet. Est-ce que j'ai raison?
Si ma maison prend en feu, est-ce que les fantômes vont prendre en feu eux aussi? C'est ça mon raisonnement.
D'ailleurs, parenthèse, mais j'ai pensé à toi parce qu'avec mes étudiants, je suis allée à Holy Trinity, la cathédrale anglicane du Vieux-Québec, qui serait le lieu le plus hanté du Vieux-Québec. J'ai enfermé littéralement mes étudiants dedans, j'ai fermé la porte, puis j'ai dit, je vous laisse là, puis dites-moi s'il y a un fantôme finalement près de l'orgue. Ils ont beaucoup arpenté le bâtiment, mais n'ont rien vu.
Non, pas de fantôme, pas de présence, pas de porte.
La présence, c'est pas pareil, je te jure. Je te mets au défi d'entrer dans cette cathédrale quand il n'y a personne d'autre, parce que je suis allée dans le cadre de mon cours et on était en plein mois d'octobre, mardi après-midi. Il n'y avait pas grand touriste, on s'entend. Alors, on était seuls dans la cathédrale. C'est ça. Je ne sais pas si c'est le bois, parce que c'est très, très, très boisé. C'est très foncé aussi. Puis comme c'est anglican plus protestant, on n'est pas comme dans la basilique cathédrale juste à côté, où est-ce que Monseigneur François de Laval avec les dorures dans le cœur, puis tu sais, c'est très sobre. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais chaque fois que je mets les pieds là, le mot présence, par contre, c'est une autre chose. Tu sens que c'est... Je ne sais pas.
T'es
je
pas
n'arrive
seule.
Pas à mettre de mots. Ou du moins, tu sens que c'est habité, genre qu'il y a de l'histoire là. Là, il y a... C'est vieux. Ça sent le vieux bois. Il y a comme... le plafond est bas. Je sais pas, il y a une ambiance, en fait, je pense qui ajoute à peut-être cette sensation que tu n'es pas seule.
Ça me fait la même chose dans mon sous-sol. Fait que...
dans les catacombes de Paris.
Oh my God! Mais bref. Aujourd'hui, on va parler d'incendies parce que il y en a beaucoup qui ont marqué l'histoire un peu partout.
C'est ça qui attise, jeu de mots radio-canadien, ta curiosité.
En fait, c'est que j'en ai beaucoup entendu parler de certains incendies en particulier, mais sans nécessairement m'y attarder. Tu sais, mettons, je sais que Londres a pogné en feu un moment donné, que Rome a pogné en feu un moment donné, je sais que Chicago a pogné en feu un moment donné, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a bougé? D'ailleurs, je viens de finir un livre où il parlait d'un incendie à San Francisco aussi, suite au méga gros tremblement de terre en 1900, début 1900. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça, je trouve que ça vient modeler un peu la société. C'est comme tout à repartir, tout à reconstruire. Et j'ai l'impression qu'avant, c'était beaucoup plus tragique aussi parce que, il n'y avait pas tout le système de pompiers qu'on a aujourd'hui, les canalisations, les extincteurs, tu sais. C'est à maison passée au feu.
C'est aussi le type de bâtiment qui est problématique. Tu sais, je veux dire, même le Vieux-Québec a une histoire assez spectaculaire d'incendie avant qu'on arrive avec les fameux murs coupe-feu qui sont une caractéristique maintenant du Vieux-Québec qu'on remarque pas nécessairement si on s'y attarde pas, mais tu le vois très, très bien. Là, si vous allez dans la Place Royale, secteur du séminaire de Québec et tout ça dans le Vieux-Québec, vous allez remarquer que les bâtiments qui sont tous collés les uns sur les autres, les vieilles maisons, surtout proches du fleuve et tout ça, si vous regardez vers les plafonds, les toits, en fait, pardon, vous allez voir qu'il y a des cheminées qui ressortent, mais en fait, ces cheminées-là sont liées à des murs coupe-feu qui font en sorte que si un bâtiment brûle, celui d'à côté a peut-être une chance le temps que les pompiers interviennent pour pas que ça brûle. Dans le séminaire de Québec, qui maintenant est quand même est occupé en partie par l'école d'architecture de l'Université Laval, il y a même les murs, les portes là, que tu fermes en métal si jamais il y a un incendie, parce que sortir de là, c'est pas si évident que ça, c'est un vrai labyrinthe. Fait que ces murs coupe-feu-là font en sorte que le temps que le feu brûle le mètre et demi à peu près de métal qui est au milieu, toi, t'as le temps d'évacuer évacuer avant que ça touche la deuxième aile du bâtiment. Et ça, ça a changé, je te dirais, un peu. Ça fait en sorte qu'on a préservé beaucoup de bâtiments jusqu'à aujourd'hui. Mais avant ça, tu sais, je veux dire, mettons-nous juste ici, là, chez nous, avant d'aller ailleurs, mais c'était le cas partout, c'est que, tu sais, je veux dire, on construit en bois. Essentiellement, on n'est pas encore avec le béton ou quoi que ce soit dans les époques qui vont nous intéresser, parce que bon, incendie de Rome, on est quand même en 64. Si on parle de l'incendie de Londres, on est au 17e siècle. Après ça, on s'en va au 19e, où là, justement, c'est une époque assez charnière où ces grands incendies-là, quand les villes vont être vraiment très peuplées, vont amener des changements au niveau des normes de construction, du développement d'un service d'incendie peut-être plus moderne aussi. Mais Québec, donc, répond à ça. Fait que, tu sais, t'as vraiment ces murs coupe-feu-là qui, au 19e siècle, ont commencé à être ajoutés. Parce que sinon, si un bâtiment brûlait en bois, ben tout un quartier au complet y passait. C'était super rapide. Puis au Québec, vu notre climat, si on compare à l'Europe, ben on isolait les bâtiments un peu parce que c'était très froid l'hiver, avec du crin de cheval, de la rippe, puis des choses comme ça. Fait qu'un tuyau de poêle qui a une fuite... Ben, le séminaire de Québec a des bâtiments qui ont brûlé trois fois dans son histoire depuis la fondation par Monseigneur François de Laval.
Hey, sérieux? rendu à la troisième fois, ils doivent être comme « Ah, sérieux, là? »
Ben, les murs coupe-feu ont fait la job. À partir du 19e siècle, c'est pas réarrivé, c'est ça, tu sais. Fait que c'est comme une longue histoire, mais c'est sûr que c'est ça au Québec, juste de prendre en considération comment on isolait les bâtiments, puis quand tu te chauffais uniquement avec des poêles à bois, même pour des bâtiments publics, ben à un moment donné, les tuyaux doivent passer quelque part, puis ça passait souvent par les murs pour sortir par les cheminées sur le toit de bâtiments qui avaient 3, 4, 5, 6 étages des fois. Ben, c'est ça, un bris de tuyauterie dans un poêle à bois, puis je veux dire, bye bye! Il reste plus rien! Et voilà, fait que, tu sais, l'histoire des incendies est beaucoup liée aux normes de construction quand on y pense, là. Du moins, ceux qui ont été très dévastateurs dans le passé. Puis, je veux dire, même ceux qui le sont aujourd'hui, souvent sont liés un petit peu à des pays ou des villes où les normes, voilà, sont
moins.
Les normes de sécurité sont moyennes.
C'est ça. Mais là, tu as commencé justement en parlant de Rome qui s'est passé en 64. On peut-tu commencer avec celui-là?
On peut très bien commencer avec celui-là. J'aime le « on peut-tu ».
Mais ça a dû vraiment être un... Non, mais ça a dû vraiment être un gros incendie pour que ça nous reste jusqu'aujourd'hui, là.
Oui, mais c'est resté parce que le christianisme l'a récupéré. Okay. Donc, il y a une stratégie de propagande religieuse qui est liée à ça parce que ben, c'est sûr que les chrétiens vont être un peu considérés comme étant... vont être pointés du doigt comme les coupables et c'est l'époque où on va tuer Saint-Pierre, l'apôtre Pierre.
Oui.
Dans les contre-coups de cet incendie-là. Alors, c'est sûr que du point de vue du christianisme...
Mais il n'y avait pas la rumeur comme quoi c'était un empereur qui avait mis le feu à la ville?
Ben oui, ce serait Néron. Et ça, c'est quelque chose que, vraiment, dans les dernières années, on a relativisé énormément. Enfin, on a complètement changé notre perception sur ces événements-là. Parce que, quand je te parle de propagande chrétienne, c'est que pendant longtemps, on prenait pour acquis que Néron est un trou de cul. Il voulait faire construire son méga palais parce qu'on s'entend qu'il a fait des choses assez exceptionnelles du point de vue architectural à son époque. Il aimait beaucoup l'architecture puis il investissait beaucoup là-dedans, peut-être au détriment d'autres choses. C'était facile, en fait, de dire, ben, il voulait se construire un plus gros palais sur le Palatin, fait que lui-même mis le feu, puis il a laissé ça brûler, puis il a chanté pendant que Rome brûlait. Ça, c'est des témoignages qui nous viennent plus d'un... et qui sont plus tardives que l'incendie, où à un moment donné, on réagit à comment on a accusé les chrétiens, puis on a fait de Néron le méchant d'une histoire. Puis aujourd'hui, ben, ce qui est intéressant, depuis, je vous dirais, peut-être une dizaine d'années maximum, mais encore plus depuis 5-6 ans, il y a eu beaucoup de nouvelles biographies de Néron où on a complètement réalisé... On a réalisé qu'avec les sources, quand on les lisait comme il faut, et tout ça, au contraire, il était proactif pendant cet incendie-là. Il a été un peu l'ancêtre de la Croix-Rouge, je te dirais, même là-dedans. Fait que c'est vraiment un changement de perspective important, en fait, qui s'est amorcé avec cet empereur-là. Je suis à ma grande universitaire, c'est mon domaine, mais c'est quand même assez intéressant. Je m'excuse.
Mais oui, donc Rome, en 64, qu'est-ce qui s'est passé pour vrai au-delà de la propagande?
Ben, le problème de Rome en 64, c'est que là, c'est devenu une capitale, pas juste de l'Italie, mais d'un empire qui est méditerranéen. Rome est une ville qui dépasse 1,5 million d'habitants à peu près. On peut jamais être très fixe sur les chiffres pour l'époque, parce qu'on a perdu les papyrus qui nous donnaient les recensements qui étaient faits aux 5 ans. Mais on sait qu'on joue dans à peu près 1,5 million d'habitants. On est rendu avec 14 quartiers principaux. Et le cœur de la ville où il y a la colline du Palatin, où est-ce qu'il y a le forum. T'sais, on parle vraiment du cœur de la ville de Rome, de la vie publique de Rome. C'est devenu très, très, très habité. Il y a des marchés publics le long du Tibre. C'est quand même très dense. Puis depuis l'empereur Claude, en plus, juste avant Néron, ben on l'a assassiné, on l'a empoisonné avec des champignons pour que Néron devienne empereur. Alors, on a développé aussi le port d'Ostie. Donc, Rome est vraiment devenu le centre du monde méditerranéen. C'est pas rien là, comme changement. Ce qui fait que la démographie, tout ce qui est logement pour les commerçants et tout ça, ça a poussé un petit peu partout sans nécessairement suivre des plans préétablis. Oh. Mais Rome a quand même un avantage pourtant en 64, c'est que c'est les champions de l'hydraulique. Je veux dire, ils ont les aqueducs déjà à cette époque-là, l'eau arrive facilement, donc ils ont ce qu'il faut pour combattre un incendie malgré tout, mais reste que le problème, qu'est-ce qu'il est? C'est que la manière que tout s'est développé, ben, les bâtiments sont tous collés les uns sur les autres, ça protège du vent un peu, c'est souvent une stratégie en fait urbaine de coller tous les bâtiments ensemble, puis de faire quelques étages pour bloquer le vent en particulier, mais c'est en bois. La plupart des bâtiments ne sont pas en pierre. Les bâtiments publics, oui. Un palais va être en pierre, mais je veux dire, la plupart des logements sont en bois. Puis je veux dire, tu peux avoir jusqu'à 6-7 étages. Puis les plus pauvres sont dans les greniers, puis ils montent par là par un escalier. Puis tu sais, ils peuvent même pas, ils ont même pas de cuisine. Tu sais, ils mangent dans la cuisine de rue.
7 étages en bois, mais c'est donc ben haut.
Oui, mais là, le septième, je vais ajouter un grenier. Puis c'est pas partout, mais t'as des secteurs où ça, c'est devenu tellement densifié. Puis le prix des logements n'était pas nécessairement si abordable que ça, que les plus pauvres souvent habitaient dans des espèces de greniers, de ces espèces de blocs appartements qui ont commencé à exister à l'époque de Néron. Donc, on est dans les années 60 de notre ère. Ben, tu sais, je veux dire, il faut vraiment imaginer que dans le secteur de ce qui était le palais impérial depuis Octave, le premier empereur, Octave Auguste, celui qui a dit « Hey, Cléopâtre, je vais te traîner dans les rues de Rome, puis tu vas te faire lapider », puis elle a dit « Fuck you, je vais me suicider
». On s'en souvient, oui, on s'en souvient.
Il y a un petit chérubin dans le film avec Elizabeth Taylor, c'est le petit blondinet. J'ai toujours un peu ri de cette représentation. Ben, à partir de lui, il y a un palais impérial sur la colline qui est supposé être le début de la fondation de Rome par Romulus et Rémus, qui est le Palatin, qui est la colline que tu observes à Rome, là, parce que 7 collines, mon œil, là, je veux dire, il y a des mini redénivellements, là, mais il n'y a pas 7 collines. Fait que tu sais, tu as des bibliothèques, tu as des bâtiments administratifs, c'est l'époque où tu as le Circus Maximus, qui n'est pas loin non plus, donc le grand hippodrome pour les courses de char, si jamais vous avez déjà trippé sur Spartacus et compagnie, là, vous allez pouvoir voir tout ça. Fait que, tu sais, c'est quand même une ville qui s'est développée vite et qui devient, par ces blocs appartements-là, en bois en particulier, qu'on appelle des insulae, assez dangereuses si jamais il y a un incendie. Mais Rome a quand même un service d'incendie. Donc ça, c'est important de le savoir. On a des vigiles, différents types de vigiles, en fait, pour gérer la ville. Puis il y a des vigiles qui sont attitrés uniquement à la surveillance de est-ce qu'il y a des feux quelque part, si oui, on se dépêche à les éteindre. Et Rome est quand même très moderne pour l'Antiquité avec cette idée d'un service d'incendie. Mais on s'entend que service d'incendie, c'est quoi? C'est qu'on transporte en charrette des boquettes d'eau, des chaudières d'eau, puis on peut pomper à la main avec des tuyaux pour cracher de l'eau à une plus grande distance, mais c'est pompé à la main, là, c'est pas... on n'a pas encore de système mécanique à roulette ou rien pour pomper l'eau, là. Fait que c'est quand même laborieux, mais reste que pour une ville d'Antiquité, c'est très moderne quand on y pense, quand même. Puis c'est un petit peu dans ce contexte-là que va arriver cette espèce d'incendie
spectaculaire. Est-ce qu'on sait comment ça a commencé?
C'est difficile à dire. Il y a eu plusieurs témoignages et quand on regarde les sources antiques, là, il y a eu quand même pas mal de témoignages qui vont parler de ça a commencé peut-être proche du forum. Honnêtement, du point de vue des historiens, c'est un petit peu difficile là, de tout expliquer. Mais ce qu'on a par les sources, c'est qu'on sait que c'est dans la nuit du 18 au 19 juillet Et ce serait soit proche du Forum, puis les boutiques du centre-ville, ou proche du Circus Maximus. C'est pour ça que je te l'ai mentionné, l'hippodrome, le gros hippodrome qui permettait de faire des courses de chars, qui aurait eu, en fait, le début de l'incendie. Pourquoi, comment, on ne le sait pas, mais d'après les sources, c'est à peu près dans ce secteur-là que ça a commencé, là, dans la nuit du 18 au 19 juillet 64. Et malheureusement, ben c'est ça que je te dis, c'est le secteur, c'est le centre-ville de Rome. Fait que c'est très densément habité, il y a beaucoup de bâtiments là, beaucoup sont en bois aussi, et ça se répand à une vitesse spectaculaire, ce qui fait que les vigiles qui sont attitrés d'habitude à éteindre un incendie dans un quartier puis qui peuvent réussir à empêcher que ça se répande ne fournissent pas, en fait. Et ça va durer 6 jours. Alors, c'est un peu ça aussi, c'est que souvent, ces incendies-là, on va voir la même chose avec l'incendie de Londres, c'est que quand ça part, on est en plein été, il fait chaud. C'est pas nécessairement sec, par contre, parce que c'est l'Italie, mais il vente. Et là, le vent, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il nuit aux pompiers qui travaillent manuellement avec des sopes, avec des pompes manuelles à essayer d'éteindre l'incendie. Mais quand t'as beaucoup de bâtiments en bois puis qu'ils ventent, ben là, ça se répand, puis là, tout brûle sur son passage. Fait que ça a duré 6 jours, c'est quand même énorme. Puis les vents, dans les sources, dans les témoignages qu'on a, les vents ont été vraiment un facteur aggravant de ce côté-là. Ben, on l'a vu cet été, d'ailleurs, été 2022, les sécheresses en Europe, les forêts qui ont brûlé, entre autres, du côté du Portugal, de la France, de l'Italie, le vent a été un facteur majeur de propagation rapide, ce qui fait que les pompiers n'arrivaient pas à lutter contre ça. Et qu'on a le même problème, en fait.
Puis est-ce qu'on sait ça a été quoi, tu sais, le nombre de victimes puis toutes les répercussions dans le sens que comment ils ont tout reconstruit après? Comment
ils vont reconstruire moderne, puis ils vont mieux adapter justement l'accès à l'eau dans le secteur du centre-ville après. Mais on sait qu'après 6 jours, tu sais, on a quand même une... En fait, le centre-ville de Rome est pas mal détruit. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que c'était facile de dire, Néron trouvait que c'était trop compacté, il voulait un nouveau palais, il n'y avait pas de place pour le construire, il a mis le feu, puis il a fait brûler le centre-ville. Tu sais, c'était facile, en fait, de penser comme ça, parce que c'est essentiellement le centre-ville qui, de ce qu'on en sait, a été détruit. Mais il faut dire que les Romains n'ont pas de journaux, ils n'ont pas laissé de dessins disant voilà ce qui a été détruit, alors que l'incendie de Londres, on a des gravures, littéralement, tu sais, de ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on avait quand même les vigiles qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient là, pour pomper l'eau, mais dans les témoignages que de plus... Ce qui va être un parallèle avec les autres incendies qui vont nous intéresser, c'est à quel point les gens vont être pris, en fait, là-dedans. T'sais, il y a vraiment... Là, les gens sont coincés là-dedans. Il y a trop de monde. Les gens fuient, ils savent pas où aller. Il y a le feu, il y a la fumée. Les gens voient rien. C'est la nuit, évidemment. Fait que là, on n'est pas dans des villes éclairées comme les nôtres non plus. Il faut vraiment imaginer ça. Fait que les gens font quoi? Ben ils se piétinent. Ils se bousculent. On a beaucoup de témoignages, en fait, de la Rome antique qui parle plus du piétinage. En fait, beaucoup de morts parce que les gens se sont pilés dessus dans l'espoir de se jeter dans le Tibre ou de prendre des bateaux pour traverser sur l'autre rive puis peut-être aller vers la campagne. Fait que ça, on a une bonne idée de ça. On sait que les voleurs en ont profité pendant et après l'incendie parce que le centre-ville est comme complètement vide. Il n'y a plus personne. Fait qu'on sait qu'il y a des voleurs qui en ont profité. Et après coup, donc dans les sources qui vont parler du feu, mais après, là, tout d'un coup, commence à circuler l'idée qu'il y aurait peut-être des voleurs qui auraient jeté des torches sur des ordures ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils se sont fait prendre, puis là, ils ont fait « Ah, je me fais prendre à voler », puis là, ils échappent leur torche quelque part, puis là, c'est comme ça que le feu prend. Mais on n'est pas capable, concrètement, là, de savoir tous ces détails-là. Ce qu'on sait, par contre, c'est que Néron, donc qui est l'empereur à ce moment-là, était à 4 heures à cheval. Les sources comme Sénèque sont assez précises, mais il revient, là. Je veux dire, il n'est pas sur place. Fait que, tu sais, l'idée qu'il chante avec une lyre pendant que Rome brûle, il n'est pas là!
Mais quelle est cette image? D'où ça sort?
C'est très chrétien, très enfer, très... C'est l'empereur diabolique qui va persécuter les chrétiens après l'incendie, parce que ça, c'est un fait. On va vraiment le diaboliser, Néron, dans ces circonstances-là. Fait que, tu sais, il était Antium, là, à peu près 4 heures de cheval, puis là, aussitôt qu'il y a le message, parce qu'il y a un messager à cheval qui s'en va le prévenir, il faut qu'il revienne. Il est à cheval, tu sais, il peut pas prendre un TGV en disant « Wouhou, j'arrive! »
Au moins, il y a eu le temps d'arriver avant la fin, arrive. Là, c'est la bonne nouvelle.
Ce qu'il y a d'intéressant, en fait, dans les témoignages aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'aussitôt qu'il est arrivé, puis même avant qu'il arrive, il renvoie des messages par le messager qui est à cheval. On va ouvrir, en fait, plein de bâtiments publics qui sont en dehors de la zone de l'incendie, des granges et tout ça pour loger les gens, nourrir les gens, fournir des couvertures, des couchettes et tout ça, parce que, écoute, t'as beaucoup de sans-abri après un incendie comme ça. Fait, on parle d'à peu près de 250 000 réfugiés, si on essaie de faire un estimé, là.
C'est énorme! C'est comme un quart de la population, là!
Oui. Puis, tu sais, je veux dire, pendant 10 jours, mettons que ces gens-là, avant de même pouvoir passer à les loger en campagne ou quoi que ce soit, juste faire les recensements, essayer de comprendre ce qui se passe, c'est un peu le bordel. Et c'est ça, tu sais, je veux dire, on sait aujourd'hui que Néron était quand même proactif dans la nuit même, puis les jours qui ont suivi pour aider les réfugiés et tout ça. Rome est quand même très riche, là, à l'époque de Néron. On n'a pas de problème financier majeur, au contraire, fait qu'on peut aider la population, l'État peut le faire. Puis, tu sais, il y a eu des distributions de blé gratuites, les refuges, mais c'est ça, l'histoire chrétienne a tellement été puissante qu'on on associe encore Néron avec sa lyre qui chante cependant que le rhum brûle, alors que quand on regarde les sources non chrétiennes, au contraire, tu sais, il fait ce qu'il peut, en fait, à ce moment-là. Puis, tu sais, je veux dire, il va... c'est sûr que là, à un moment donné, ben, il va falloir monter les taxes après coup pour pouvoir reconstruire Rome. C'est sûr que là, pour l'élite, on va moins apprécier aussi peut-être ça. Mais ce qui se passe, c'est que malgré les efforts que Néron a fait, les gens sont insatisfaits. Les gens, tu sais, comme dans n'importe quelle crise, que ce soit une pandémie, que ce soit n'importe quoi, on veut des coupables. Qui a mis le feu? C'est bien beau que Néron aide les réfugiés, là, et que très vite, avec les taxes et tout ça, il commence la reconstruction de Rome et d'un centre-ville plus moderne, mieux adapté, justement, s'il y a des incendies. On va moins coller les bâtiments, on va travailler autrement, on va s'assurer qu'il y ait de l'eau dans tous les quartiers amenés par les aqueducs pour que s'il y a un incendie dans un quartier, on ait tout de suite accès à de l'eau très proche des bâtiments. T'sais, tout va être repensé, en fait. Mais ça prend des boucs émissaires, et les gens, à cette époque-là, voient la montée de cette secte qu'on appelle les chrétiens, parce que t'as encore des apôtres prêcheurs. Pierre est vivant. Alors, lui, il existe, il est historiquement vrai. Il est là, puis il est très connu, Paul aussi, donc Saint-Paul. Ce sont des personnages historiques, là. Je veux dire, ce ne sont pas que des saints de l'Église catholique. Néron, ben là, se dit, bon, ben ça y est, il faut que j'agisse. Et là, les gens disent, ben les chrétiens, c'est de leur faute, ils veulent jamais vénérer l'image de l'empereur, ils veulent pas vénérer les dieux traditionnels comme le dieu Mars ou le dieu ou Jupiter ou Saturne, parce qu'ils vénèrent qu'un seul dieu, alors que nous, on s'en fout que tu vénères un dieu chrétien, mais vénère les nôtres aussi, parce que c'est l'idée que si les dieux sont pas contents, ils vont se venger. Et là, on pense que c'est une vengeance divine parce qu'il y a de plus en plus de chrétiens à Rome qui refusent, en fait, de vénérer les dieux traditionnels. Donc ça, c'est là. Et Néron, ben, étant empereur, doit agir. Et c'est ce qui fait que sur le lieu de son cirque, c'est la place Saint-Pierre. Pourquoi il y a un obélisque égyptien sur la place Saint-Pierre à Rome? C'est que ce Caligula, qui était là 2 empereurs avant lui, en fait, tu as eu Caligula, Claude et Néron. Le jeune Caligula avait fait venir un obélisque d'Égypte, puis il l'avait planté à un endroit où on avait un cirque où les gens allaient voir les animaux exotiques se battre, puis déchiqueter des esclaves, etc. Ben, sous Néron, c'est encore un cirque, et c'est l'endroit où, effectivement, on va persécuter les chrétiens, où on va tuer Pierre, l'apôtre Pierre, d'où le nom de la place Saint-Pierre. Et d'où pourquoi la basilique Saint-Pierre est là, et d'où pourquoi le supposé tombeau de l'apôtre Pierre est dans les sous-sols de la basilique. Oui, c'est ça, on touche à quelque chose de
très religieux. Je savais pas tout ça, mais là, je suis comme gênée d'avouer.
Là, je vous dis, est-ce que Gabrielle a les yeux, parce que nous, on se voit, hein, toi et moi, elle a les yeux très grands. Mais, je vais te laisser réagir, là.
Mais non, mais parce que... Non, mais c'est parce que j'absorbe tout ce savoir parce que je me sens un petit peu nouille de dire ça, là, à tous nos auditeurs. Mais moi, je pensais que tous les apôtres, puis tout, c'était pas vrai, là, dans le sens que je pensais que c'était juste de la religion, mais qu'il n'y avait pas réellement existé.
Ah oui!
Mais c'est ça, je savais pas ça. Moi, je pensais que c'était comme tout mythique, là, comme la religion, puis... Puis Dieu, puis Jésus, là, tu comprends? Je pensais pas que tout ça avait existé pour vrai. Fait que c'est pour ça que là, j'absorbe.
Ben, il y en a qui ont laissé des traces écrites qu'on peut retracer. Il y en a que non, mais il y en a que oui. Puis Pierre, c'est le plus facile avec Saint-Paul. Saint-Paul et Saint-Pierre sont les plus faciles à retracer. Parce que, ben effectivement, en plus, ils sont persécutés tous les deux, puis ils apparaissent dans les archives romaines. Alors là, ils sont faciles à retracer.
Mais là, Zachée, il a-tu existé pour vrai?
Ça, je le sais pas. Tu vois? Lui, je peux pas te répondre. Zachée, my God.
Ça, son passage m'avait complètement traumatisée dans la Bible. En tout cas, quand j'ai appris ça dans mes cours de catéchèse,
des ça, bons ça moments. Ça n'existe plus, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ceux qui sont comme, de quoi elle parle? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Le catéchèse, c'est quoi ça? Chers enfants, si vous saviez ce qu'on a eu comme système scolaire à cet égard. Boy.
Mais donc, Saint-Pierre a existé pour vrai.
Saint-Paul aussi.
Un tombeau dans le sous-sol. C'est là qu'il a été...
Est-ce que c'est vraiment le sien? Bon, là, écoute, c'est... là, on entre dans un autre univers. Là, c'est un peu comme l'église du Saint-Sépulcre où serait le tombeau de Jésus. Là, je veux dire, là, on entre dans un autre univers. Mais je te confirme que Pierre a existé, a été persécuté en 64, là où est la place Saint-Pierre. C'est pour ça qu'elle porte son nom, sous le règne de l'empereur Néron, parmi d'autres chrétiens qui sont, dans le fond, punis pour l'incendie de Rome parce que les Romains veulent des boucs émissaires. Et ça va donner par la suite... Surtout quand le christianisme a devenu la religion de l'Empire 300 ans plus tard, là, un outil de propagande. Puis Néron devient comme le premier méchant. Après Ponce Pilate et Jésus, là, le nouveau méchant, c'est Néron. Je veux dire, qui brûle Rome, c'est lui qui a fait ça, mais finalement, il accuse les chrétiens parce qu'on veut pas. Il veut pas qu'on pense que c'est lui, etc. Là, ça, faut vraiment. faut nuancer ça beaucoup parce que maintenant, c'est ça, pendant longtemps, on dirait qu'on est rond, c'est le méchant empereur, on s'intéresse pas à lui, il est pas le fun. Puis là, à un moment donné, il y a des historiens, on dit, attendez une minute, là. On va retomber là-dedans, on va faire un travail correct, là, puis on va regarder les sources. Puis quand on regarde les sources, ben, ça ne correspond pas à ce que, justement, la propagande chrétienne a fait plus tard. Parce qu'ils étaient en colère, avec raison, mais tu sais, je veux dire, on a diabolisé un empereur qui aurait peut-être pas dû l'être autant, il est loin d'être parfait, là. Sa mère a quand même assassiné Claude dans l'empoisonnement.
C'est Agrippine, sa mère.
Oui,
hein?
C'est ça.
Oh oui, Agrippine, moi, je l'aime full. Elle est complètement cinglée. Complètement cinglée. Pas de limite avec Agrippine. Mais elle s'est pas fait assassiner par son fils aussi.
Ben oui, ben en théorie,
c'est ça.
Oui.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, genre, tout est dans tout, là, j'ai envie de dire.
Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas non plus un enfant de cœur, Néron, mais je veux dire, Caligula est aussi pire. Il y a eu des empereurs, en fait, aussi terribles plus tard. Mais c'est sûr que l'incendie de Rome, bon, ça a des impacts sur l'économie de la ville, une ville qui était en croissance, parce que là, tu sais, le temps de reconstruire, les taxes qui vont monter. Bon, il y a quand même des satisfactions envers Néron, et c'est la raison pour laquelle, ben, à un moment donné, lui commence à avoir peur des complots, puis il commence à devenir paranoïaque, et avec peut-être un peu raison aussi. Et là, ben, le Sénat commence à dire, ben, peut-être que t'es mieux de céder ta place, là. C'est ou tu vas te faire assassiner, ou tu choisis toi-même de partir. Puis Néron va choisir le suicide, parce que, donc, il s'en va avec un de ses gardes, en fait, puis bon, là, de ce qu'on en sait, est-ce que c'est lui qui s'est enfoncé un couteau dans la gorge ou c'est le garde qui l'a fait? C'est pas très clair, c'est pas très... Bon. Fait que voilà. Et la littérature même romaine de l'époque dit que quand il est parti, tu sais, il arrêtait pas de dire « Calus Artifex Pereo! » Ça veut dire genre « Mais quel artiste périt avec moi? » Parce que son rêve, comme le chante Claude Dubois, c'est qu'il aurait voulu être un artiste. Voilà. Ben, malheureusement, sa mère a décidé de tuer Claude puis d'en faire un empereur.
Mm-hmm, mais... Mm-hmm. Mais d'ailleurs, hein, je vais faire une parenthèse sur Agrippine, mais dans un des livres de Juliette Benzoni, qui est une historienne que j'aime beaucoup, où évidemment l'histoire d'Agrippine est excessivement romancée, mais elle consacre un chapitre à Agrippine justement sur comment elle a séduit Claude, comment elle a mis son fils sur le... Parce que Claude était avec Messaline, si je me trompe pas.
Avant, oui, qui était la pire traînée de la ville de Rome, là, elle l'a trompé de toutes les façons possibles.
Exact. Ouais. Puis elle sortait dans les lupanars et tout. Oui. Fait que là, Agrippine l'a dénoncé. En tout cas, c'est vraiment très, très, très intéressant comme histoire, mais semblerait que Agrippine, mais là, évidemment, on est dans la légende, là, mais que quand les gardes de Néron sont arrivés pour l'assassiner, elle a dit « Frappez-moi au ventre qui a porté Néron ». Alors,
oui,
voilà.
Bon, c'est ça. Ça, là, ce genre de citation-là, où quel artiste périt avec moi, ça fait bien dans la littérature romaine. Mais, tu sais, je veux dire, est-ce qu'ils ont vraiment dit ça? C'est un peu comme Marie-Antoinette qui a jamais dit qu'il mange du gâteau, là. Tu sais, je veux dire, mais ça marque l'imaginaire, ça marque l'esprit. Voilà. Fait que souvent, on se rappelle de ces citations-là, mais on n'a aucune idée de
ça. Vraiment. Ça sonne tellement bien. Mais tu parlais aussi, tu as beaucoup, beaucoup fait le parallèle avec justement l'incendie de Londres. Ouais. Mais Londres, c'était beaucoup plus tard.
1666.
666. Oh.
On pourrait, oui, effectivement, faire ce parallèle. Mais, tu sais, toi, quand tu penses à l'incendie de Londres, qu'est-ce qui te vient en tête?
Du feu à grandeur. Non, mais j'ai l'impression que Londres au complet a été ravagée de par les peintures que j'ai vues, ou justement, tu parlais des gravures, mais comme si, là, on rase tout puis on recommence à neuf. Là. Moi, c'est vraiment l'impression que j'avais quand je pense à l'incendie de Londres.
Oui, ben, c'est ce qui fait que d'ailleurs, quand tu vas à Londres, tu dis tout le temps, ben voyons, tu sais, l'histoire de Londres est tellement riche, mais comment ça se fait que les bâtiments que je vois sont quand même pas mal tous récents? C'est l'explication. Alors que quand tu vas dans une ville comme Édimbourg et que tu vois justement les vieux bâtiments, puis tout de suite, t'es comme, quand c'est que Londres n'a pas ça, ben l'explication se trouve ici, dans le grand incendie de Londres.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben c'est sûr que la source de l'incendie, encore une fois, ça c'est un mystère quand même assez total, mais il faut dire que pour les Londoniens, quelle époque, là, tu sais, les années, la moitié des années 1660, là, tu sais, je veux dire, c'est une période quand même assez charnière, là. On avait eu, tu sais, la révolution, décapitation de Charles Ier, là, on est rendu avec Charles II qui est sur le trône en 1665, et là, maintenant, on a Charles III à nous, D'ailleurs, c'est pour ça, Charles, comment ça fait que c'est sûr que comme c'est Charles dans sa titulature qui est toujours le plus utilisé, c'était logique qu'il décide de s'appeler Charles III, mais quand tu regardes les deux Charles dans l'histoire d'Angleterre...
Ça n'a pas bien fini, là.
C'est pas des histoires très...
C'est pas un bon présage de s'appeler Charles.
Mais Charles II, c'est moins pire, mais il a vécu une époque, il a été roi à une époque où tu te fais comme... Ah! Tu sais, je veux dire, mon Dieu, qu'il a géré des choses pas possibles. Faut dire qu'en 1665, déjà, t'as une des plus grandes résurgences de la peste à Londres. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui sont morts, puis il y a beaucoup de monde qui ont fui la ville parce que la peste était de retour, puis je veux dire, mais de manière quand même assez costaude. Et là, ça s'est calmé, les gens faisaient comme « Ah, oh, OK, on peut revivre normalement », et là « c'est ça. À partir du 2 septembre, si ma mémoire est bonne, 1666, ben là, il y a un début d'incendie dans un quartier de Londres qui est pas très loin de la Tamise. Et ben voilà, vous êtes à une époque, les bâtiments sont encore en bois. Et Londres au 17e siècle, ben c'est encore une fois ces espèces de vieilles rues tortueuses où toutes les maisons, ça ressemble plus tant à ça aujourd'hui là, mais où les maisons étaient toutes collées les unes sur les autres, encore une fois plusieurs étages pour loger différentes classes sociales, les maisons sont collées pour à la fois prévenir les vents mais aussi les bombardements, aussi une guerre, ça sert un peu de fortification en même temps, c'est un peu ce que vous voyez dans le Vieux-Québec, tu sais, quand vous allez dans le Vieux-Québec là, que vous regardez toutes ces maisons à 3, 4, 5 étages collés les unes sur les autres. Et ben voilà, un incendie qui commence et il faut dire qu'ils avaient eu un des étés les plus secs depuis longtemps parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même pas mal de témoignages écrits. Il y a quand même des gens qui ont été témoins de ça. La littérature va en reparler aussi, mais on a des gens qui vont juste raconter ce qu'ils ont vu et ça aide quand même les historiens plus les gravures à avoir une idée un peu de l'ampleur de la catastrophe. Puis t'es quand même à l'époque d'un roi où il y a pas mal d'archives royales qui ont survécu aussi. Fait qu'on a une idée quand même de ce qui se passe. Et ce qu'on sait, ben c'est ça, c'est que là, c'est il vente et il a fait très sec, ce qui fait que tout est sec, là. Je veux dire, les façades des maisons n'ont pas été mouillées par la pluie, contrairement à ce qu'on connaît d'habitude dans une ville comme Londres.
Ouais, mais ça me semble Londres, d'habitude, c'est tout le temps mouillé, là, même quand il fait beau, il pleut, là.
C'est ça, tu sais, c'est généralement très, très humide. Fait que ça, le vent, encore une fois, comme pour Rome, va faire en sorte que ça va commencer à se répandre super rapidement et les gens ben vont fuir, vont se mettre à courir, vont se jeter dans la Tamise. En fait, les témoignages sont souvent, c'est souvent ça, ça crie, ça hurle, les gens ont peur parce que ça va vite, le feu se répand plus vite que d'habitude parce qu'avant, encore une fois, si un feu commençait dans un quartier, ben on arrivait avec les chevaux et tout, puis on aspergeait d'eau, puis on arrivait d'habitude à contrôler l'incendie, on creusait dans la terre et tout ça pour faire des tranchées pour que le feu arrête d'avancer, comme on fait en forêt aussi, dans les incendies de forêt, mais là, on n'a pas le temps. Ça fait juste brûler, puis ça s'avance. Puis là, les gens paniquent, puis se jettent dans l'eau. Et là, on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'éteindre ça, puis Charles II est roi. Là, t'es un roi quand même qui est là, puis qui dit, bon, ben qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose comme ça? Parce que ça va durer quand même 4-5 jours à peu près, cet incendie-là. On va jouer entre le 2 et 6 septembre à peu près, là, pour le gros de l'incendie. Fait que c'est c'est long, longtemps. C'est long, mais ça brûle. Mais, tu sais, je veux dire, un incendie de bon, si vous avez déjà vu des maisons brûler, ça peut brûler en 2 heures, mais mon Dieu, que ces 2 heures-là est pénible à regarder, là, je veux dire, c'est terrible, mais imaginez quand ça dure des jours. C'est quelque chose. Et ils ont beau essayer d'éteindre, ça ne marche pas. Les bâtiments sont trop secs, puis le vent propulse le feu. Et là, le roi dit, ben écoutez, on n'aura pas le choix, mais on va abattre les maisons d'un quartier pour arrêter le feu, pour qu'il n'y ait plus rien à consommer. Fait que vous allez, tu sais, abattre les maisons et tout ça. Fait que ça veut dire qu'on exproprie les gens, on les sort de chez eux. De toute façon, ils sont déjà sortis avec le feu qui avance. On va jeter à terre les maisons et on va essayer de faire en sorte que le feu ne puisse pas continuer. Mais malheureusement, les structures qu'on jette par terre lui servent en fait de propulseur parce que c'est du bois sec. Fait que le feu passe par-dessus puis continue. C'est ça que dans les témoignages qui est de fou, c'est qu'on pensait, OK, là, on vient d'abattre les maisons d'un quartier. Il ne peut pas passer dans le quartier suivant. Mais il se sert des débris, en fait, avec le vent. Ça continue. En fait, ça y sert comme vraiment de propulseur.
Le tremplin, quasiment.
Et il est encore plus puissant, en fait, quand il atteint le quartier suivant. Donc, c'est une catastrophe. En fait, il reste à peu près 1/5 de la ville debout après l'incendie. La ville de Londres, telle que vous la voyez aujourd'hui, ne ressemble pas à la Londres d'avant 1666, parce que tout a été à reconstruire. Et tant qu'à reconstruire, il y a eu beaucoup de changements du point de vue de l'urbanisme, tant qu'à le faire à cette époque-là. Mais c'est ce qui explique qu'une ville comme Édimbourg a des très beaux bâtiments anciens, des fois médiévaux et tout ça. Vous cherchez ça à Londres, puis c'est pas là qu'il faut que vous alliez. Allez dans le nord de l'Angleterre, allez ailleurs, mais allez pas à Londres si vous voulez des bâtiments anciens, anglo-saxons ou des choses comme ça, allez dans les campagnes. Mais Londres n'a plus rien de son patrimoine antique, médiéval. C'est quand on fait des fouilles, des fois à Londres, que là, on trouve des vestiges romains dans les sous-sols. Mais en termes de bâtiments, il reste rien, là. Je veux dire, ça a tout été détruit, là. L'histoire de Londres est partie en fumée en 1666. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Mais la reconstruction va aller vite. En fait, toutes les églises brûlent aussi. Il y a plein de choses, là. On va choisir un architecte après, parce que la cathédrale Saint-Paul brûle. Ça aussi, c'est un choc, en fait, pour les Anglicans. C'était un symbole, mais ils vont la reconstruire tellement plus belle qu'aujourd'hui, bon, elle est un
patrimoine en elle,
mais c'est ça.
Oui.
Mais ça a été reconstruit à la fin des années 1660, puis dans les années 1670-1680, après l'incendie. Donc, on a reconstruit les églises, on a reconstruit... En fait, on a perdu les marchés publics, on a perdu à peu près tous les bâtiments administratifs, on a perdu les forgeries, tout ça a brûlé là, pendant l'incendie de Londres. C'est énorme la quantité de bâtiments qui sont partis en fumée, mais qui étaient aussi des bâtiments de services publics dans une ville comme Londres. Fait que, tu sais, c'est quand même assez spectaculaire. Et, encore une fois, on va chercher un coupable.
Ça va être qui, cette fois-là?
Ben là, ce serait un Français qui va dire... Ben oui, mais c'est ça. C'est un Français qui a un problème de santé mentale sévère. En fait, il a pas toute sa tête. Qui dit « Ah, oh, c'est moi qui ai parti ça pour le plaisir. » Fait que tu te doutes bien qu'on le peint, tu sais.
On va pas plus loin problème. Que ça, là. C'était assez...
Puis là, après ça, on se rend compte qu'il était même pas à Londres quand l'incendie a commencé. On l'a pendu pour rien.
Mais là, après, c'était correct. Après, ils ont comme fait « Bon, c'était lui, on a
reconstruit.
Oh,
ils ont reconstruit. Ben, qu'est-ce qu'il est mort, il est mort. T'sais, c'est un peu comme Jeanne d'Arc, là, t'sais. Sauf que Jeanne d'Arc, elle étant sanctifiée, ben là, puis béatifiée, c'est un autre dossier, là. Mais tu sais, je veux dire, il est pendu. Là.
Non, mais après, ils n'ont pas cherché plus loin, c'était véritablement qui.
Ça devient difficile, plus tu es loin de l'événement, de pouvoir avoir une idée de qu'est-ce qui s'est passé, puis comment ça s'est passé. C'est sûr qu'il y a eu des témoignages qui disent que c'est peut-être parti en fait là, d'étincelles de pendant des travaux de construction sur un tas de débris proche de la
Tamise.
C'est ça,
mais c'était pas délibéré là, c'est
ça
très
semble pas avoir été
accident,
délibéré, mais ce Français là qui avait pas toute sa tête a fourni une excuse parfaite pour avoir encore une fois un bouc émissaire pour ne plus se venger, on l'a pendu, on a trouvé le coupable, tout est beau, tu sais.
Je ris, mais c'est pas drôle en même temps, mais je suis comme découragée, on dirait.
C'est décourageant. Alors que, tu sais, si on prend l'incendie du Parlement de Montréal, là, on sait qu'il a mis le feu, tu sais, c'est ça.
Mais c'est là que je voulais aller, justement, parce que là, bon, on parle beaucoup de l'Europe et tout, mais il y en a eu des incendies ici aussi.
Je vous ai parlé du séminaire de Québec qui a brûlé plusieurs
fois. Merveilleux.
Puis là, ben, c'est ça. Ben, si on regarde le Parlement de Montréal en 1849, en 25 avril 1849, là, on sait exactement qui et pourquoi. Et
qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi, puis c'était qui?
C'est les Tories, les conservateurs, qui étaient pas contents, entre autres, parce qu'on avait indemnisé les anciens patriotes. Je te fais une histoire très courte.
Oui, 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 c'est parfait. Politique. J'ai tout aimé de ce résumé. J'ai tout compris.
C'est politique, mais tu sais, je vous ferai pas une grosse histoire politique du haut et bas Canada de l'époque parce qu'on pourrait y passer des heures.
Oui, oui, là, faites vos recherches puis finissez votre cours d'histoire de secondaire 4, là, comme...
Ah, écoute, j'ai demandé s'ils en parlent. À part parler du fait que le Parlement est à Montréal, est-ce qu'en secondaire 4, ils vont plus loin que ça? Je doute un petit peu.
Ben, quand est-ce que t'entends parler de Louis Riel?
Non, c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a bien des choses. Mais quoi que les cours ont changé un peu, mais je pense que le cours de secondaire 4, pas tant. C'est, ben c'est écoute, en secondaire 2 que ça a changé.
Écoutez,
mais...
15 février 1839, puis là, commencez vos recherches à partir de là, là.
Ça peut aider, effectivement, parce que, ben c'est ça, dans le fond, en 1849, vous avez le Haut-Canada, le Bas-Canada. Bon, le Bas-Canada, ben c'est le Québec, c'est pas parce qu'on est inférieur, c'est le cours du fleuve qui a déterminé l'appellation Haut et Bas-Canada. Le Haut-Canada, ben, c'est en grande partie l'Ontario qui avait été cédé aux Canadiens anglais qui avaient fui la Révolution américaine parce qu'ils voulaient demeurer fidèles à la couronne. On les appelle les loyalistes. Ils avaient au départ été logés beaucoup dans ce qu'on appelle aujourd'hui les cantons de l'Est. Donc... secteur de Sherbrooke, et d'ailleurs, ça paraît dans les noms de villages, d'architecture et tout ça, Windsor, Melbourne et compagnie, North Hatley, c'est très, très anglais. Mais ces gens-là, une fois la Révolution américaine gagnée, ne peuvent pas rentrer chez eux s'ils veulent faire partie, de la monarchie britannique, mais ils sont coincés avec des gens qui parlent français, qui sont catholiques et qui ont gardé le droit civil français, et eux sont comme « mais quelle horreur! Nous, on veut vivre à l'anglaise. » Et c'est un peu l'explication très rapide, non politique, etc., que je vous donne de cette division au Canada, Bas-Canada, où arrive vraiment le parlementarisme quand même plus développé au Canada, avec une chambre d'assemblée pour chaque territoire. Mais Montréal est choisi comme étant la capitale, et c'est là que le premier parlement de ces deux Canadas est construit. Déjà, ça fait un peu de litige, les Canadiens anglais plus conservateurs ou extrêmes dans leur vision, parce que ce n'est pas le cas de tous les Canadiens anglais. Hein. Il y en a qui s'entendent très, très bien avec les Canadiens français. Au contraire, même politiquement, souvent, ils se lient, ils travaillent ensemble. Mais il y a une souche plus conservatrice qui leur en veulent encore pour la rébellion des Patriotes, notamment.
Hey, décroché un moment donné, là, c'est fini depuis une couple d'années. Là.
Et ben c'est ça. Donc, on prend mal le fait que on construise le Parlement finalement, du côté de Montréal, pour le Bas-Canada, au Canada, là. Et parce que ça pourrait me prendre 3 heures à vous raconter cette histoire-là, si on fait une histoire courte, il y a des tensions au niveau de la Chambre d'Assemblée et des élections législatives de 1848, et il y a une loi qui est votée, qui est une loi d'indemnisation du Bas-Canada. Essentiellement, si je la résume à sa plus simple expression, parce que, tu sais, je veux dire, on entre dans le législatif, on pourrait y passer beaucoup, beaucoup de temps. Là,
non, c'est non, très simple, détaillé. Simple, j'adore ça simple.
Si on fait ça très simple, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on vote pour redonner de l'argent aux Canadiens français après ce qu'on a fait avec la rébellion des Patriotes. T'sais, il y a eu quand même des pertes économiques importantes.
Non, mais excuse-moi, là, l'église à Saint-Eustache qui ont brûlé avec tout le monde dedans. C'est-tu là, la bataille de Saint-Eustache?
Ben, pas brûlé, tu vois encore les trous de les trous de balles.
Ben, c'est ça, tu sais, un moment donné, là.
Ben, c'est ça. Puis le fait qu'on ait fait des pendaisons, tu parles de 15 février 1839 sur la place du marché à Montréal, ça va pas très bien passer. Puis c'est un peu de là que vient un peu notre expression « né pour un petit pain », là, où l'Église dit « ben, c'est le temps de revenir dans notre trou, puis de rester simple et neutre. » Puis, ben, en fait... Xavier Garneau va dire « de la merde, moi j'écris la première histoire du Canada, je vais vous prouver qu'on a une histoire, une culture bien avant les Canadiens anglais. » Fait que tu sais, comme tout...
C'est super sain comme climat, là. C'est super sain.
Puis tu sais, t'as Lord Durham qui a écrit son rapport puis qui dit « britanniser les Canadiens français parce que c'est un conflit ethnique et linguistique, régler ça une fois pour toutes quand Victoria arrive sur le trône. » Tu sais, on est dans cet univers-là, là, tu sais, dans les contre-coups de tout ça. Mais le fait que, bon, les élections législatives de 1848, les gens élus aient voté en majorité pour une indemnisation. Ça ne passe pas auprès de l'aile conservatrice qui porte, les conservateurs d'ailleurs encore aujourd'hui au Parlement britannique, s'appellent les Tories. Alors, on va parler des Tories ici. Ces gens-là ne sont pas contents et ça amène beaucoup de confrontations. Il y en a plusieurs, des confrontations avant le mois d'avril 1849. Ça va s'affronter politiquement, mais ça va commencer à s'affronter dans les rues. On va agresser même le gouverneur. On va aller vers des agressions physiques et là, ben, il va y avoir un appel à la révolte littéralement de la part des Tories c'est une émeute. En fait, le 25 avril 1849, puis dans le cadre de cette émeute-là, ben voilà, la nuit du 25 avril 1849, ben on met le feu littéralement au Parlement. On attaque l'hôtel du Parlement, on attaque un symbole qui, pourquoi c'est au Québec, pourquoi c'est à Montréal, et l'incendie, ben tu sais, il y a des conduites de gaz là-dedans, puis tout ça, parce qu'on est au 19e siècle, c'est plus la même réalité que Rome ou Londres, là. Ça a tout explosé, là. Ça y est. Puis pour nous, ça a été une catastrophe. Historique, l'incendie du Parlement de Montréal. Et ça a été une catastrophe politique pour le Québec, en ce sens où après, la reine Victoria veut un terrain neutre, en fait, pour le Parlement, puis c'est Ottawa qui est un marécage qui est choisi.
Pourquoi Ottawa est plus
parce
neutre?
Parce que c'est neutre, t'es collé sur c'est la frontière entre le Haut et le Bas-Canada.
Ah, oh, OK.
Celle-là encore. Entre le Québec et l'Ontario, Ottawa. donc, comme c'était pas un lieu encore très habité ou développé, c'était neutre pour les deux factions, et c'est pour ça que ça a été choisi. Et c'est dans la Constitution Ottawa, c'est là qu'est le Parlement. T'sais, tu bouges pas ça, là. C'est dans notre Constitution canadienne. Mais c'est littéralement écrit...
Ah ouais, hein? Wow. Fait que ça sera pas à Gatineau, là, qui vont déplacer ça un moment donné, là.
Non, ça bougera pas. Ça ne bougera pas, mais c'était un peu ça l'idée, c'est de calmer, justement, les insatisfactions d'un côté ou de l'autre. On se dit, on choisira pas une ville existante, on va en construire une dans un endroit neutre qui est vraiment la frontière entre les deux territoires, et c'est Ottawa. Donc, c'est sûr que le Québec perd, en fait, le siège du Parlement fédéral, ce qui va devenir un jour le Parlement fédéral, plus tard, en 1867. Mais c'est sûr que pour les historiens, du point de vue des archives de notre histoire. Le problème, c'est qu'il y avait deux bibliothèques à l'hôtel du Parlement, puis il y avait beaucoup, beaucoup de nos archives politiques sur, justement, toute l'histoire du parlementarisme puis des débuts du Haut et du Bas-Canada qui ont brûlé avec cet incendie-là. Il y a quelques années déjà, pas tout à fait 10 ans encore, Pointe-à-Calière a mené des fouilles archéologiques quand même assez intensives, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé beaucoup de livres carbonisés de cette époque-là, et présentement, ils sont en nettoyage, entre autres à Ottawa, au laser pour qu'on soit capable d'avoir une idée de qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Puis il y a certains textes qui commencent à être lisibles. Ça veut dire que dans les prochaines années, il y a certaines de ces archives-là qui vont être... on va peut-être pas commencer à déchiffrer et qui pourraient peut-être nous ramener là, une partie de nos archives politiques, littéralement.
Ouais. Wow! C'est tellement impressionnant!
Là, il faut que je vous dise que Gabrielle, présentement, c'est pas tout le temps comme ça. OK? Là, moi, je parle beaucoup, mais c'est elle qui a choisi le sujet.
Mais c'est parce que je connais rien. Je connais rien. C'est pour ça. Je fais juste écouter puis tout absorber, là.
Mais c'est comme moi qui fournis le jus. Mais il faut que je vous dise qu'elle est assise et elle a les yeux très grands. Je pense que c'est la première fois depuis qu'on fait ce balado. Elle a les yeux. Puis elle a, attends une minute, là. Oh, faut jouer des tables sur mon maudit, là.
Mais parce que je connais absolument rien. Je savais qu'on avait déjà eu le Parlement à Montréal puis que ça a été déplacé à Ottawa, mais tu vois, j'étais toute pas au courant de tout ça. Et là, Évelyne, le temps file, mais j'ai envie qu'on parle d'un dernier incendie qui est bien particulier, bien précis, et qui s'appelle l'incendie du bazar de la Charité.
Oui. Donc, si vous avez été des fans de The Gilded Age de HBO, dont ils vont tourner une deuxième saison, de Gillian Fellowes, auteur de Downton Abbey, vous allez vous sentir concerné. On joue dans ce genre d'univers.
Mais tu vois, moi, je veux quand même dire que le bazar de la Charité, je le connais un petit peu, cet incendie-là.
Good! Ben, vas-y!
OK, attention. Je vais jouer les historiennes avec absolument aucune date et aucun fait vérifié.
Je vais te donner la date, OK? 2 mai. En fait, non, excuse-moi. 4 mai 1897.
Je suis même plus sûre. Je vais dire à Paris, mais je suis pas sûre. Londres, oui, Paris, hein, c'est à Paris.
Paris, 4 mai 1897. Voilà, je viens de te placer.
Parfait. Donc, vous allez voir mes... mes connaissances qui se résument là, très, très facilement. Il y a un gros événement qui est organisé, donc le bazar de la charité. Donc, c'est toutes des gens. Puis là, il faut s'imaginer les grosses robes à crinoline, les gros habits, les messieurs avec les petites monocles, les chapeaux, j'allais dire chapeaux fontaine, chapeaux
haute forme. Fin 19e siècle.
Exact. Donc, c'est toutes des gens très aisés qui sont là. Puis là, on vit notre vie. Puis un moment donné, le feu pogne. Je sais pas comment le feu a pogné, par exemple. Je vais dire une bougie renversée, mais je suis vraiment pas sûre de ce que j'avance. On le sait pas, hein? Mais c'est ça. Moi, j'ai toujours imaginé une bougie renversée, mais c'est ça, là. On le sait pas. La vraie version, c'est qu'on le sait pas. Et là, le feu pogne là-dedans, mais il y a full de monde. C'est à l'intérieur. Tu vois que je suis vraiment moins Radio-Canadienne que toi.
Ça fait 11 ans, j'étais Radio-Canadienne.
Mais le feu pogne, mais la différence, c'est que c'est à l'intérieur. Fait que les gens, ils sont compressés là-dedans. Et moi, je me souviens d'avoir lu des articles et tout où est-ce qu'on parlait de carrément là, les robes à crinoline qui pognent en feu, les femmes qui vont être en fait les plus de femmes victimes que d'hommes, parce que les femmes, ben, sont moins mobiles et pognent en feu à cause de leur crinoline. Encore une fois, il va y avoir du piétinement parce que, ben, dans la panique, on veut sortir. Puis, je pense aussi qu'il y a comme une histoire, un moment donné, d'un homme qui a réussi à sortir, mais que sa femme n'était pas sortie. Puis là, il a voulu aller la rechercher. Puis là, tout le monde est mort, j'imagine, ou quelque chose comme ça, là. Donc, très tragique comme incident qui, à la base, se voulait genre une levée de fonds pour les pauvres, mais toutes les riches sont morts. Fait que je sais pas trop c'est quoi la morale de l'histoire.
Les journaux français ont essayé d'en trouver beaucoup. Pourquoi on connaît bien cet incendie-là? C'est que t'étais à une époque de l'âge d'or des journaux. En France, que ce soit le Temps, le Petit Journal, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de journaux en fait en France et à Paris, et ils vont s'emparer de cette histoire-là, ils vont la mythifier et en faire aussi une espèce de, comment je pourrais dire, ça dépend des journaux, parce que les journaux ont tous des tendances politiques aussi, mais ça va devenir aussi une façon de parler de la condition des femmes, de comment les femmes sont traitées par rapport aux hommes, parce que sur les décès, tu as bien raison, il y aurait eu que 6 hommes qui seraient décédés et 120 femmes à peu près dans les chiffres qui sont sortis une dizaine de jours plus tard. Donc, c'est sûr que la différence, elle est énorme. Comment les hommes traitent les femmes, c'est pour ça que ça devient un sujet historique. C'est un fait divers, mais qui a amené, on va dire, une conscience d'un côté sur le fait que les femmes sont peut-être moins bien vues, moins bien perçues, mais ça va amener aussi une espèce de conscience sur à quoi ça sert vraiment la charité dans ce contexte-là. C'est pour ça que je vous fais le parallèle avec The Gilded Age de HBO, parce que c'est très bien représenté cette idée de ces familles ultra-riches qui, pour laver leur conscience, ben, organisent justement ces espèces de bazars de charité. On le voit très, très bien, là, où ils sont en compétition les unes contre les autres, laquelle qui est la plus charitable, laquelle qui vend le plus et qui va donner le plus à telle œuvre de charité. C'est exactement ça qui se passe au bazar de la charité. C'est un événement annuel où les femmes de la noblesse et de la haute bourgeoisie peuvent montrer que oui, elles font partie de l'élite privilégiée, mais qu'elles se donnent corps et âme pour les pauvres. Mais c'est un endroit où être vu. Alors oui, il y a des crinolines, il y a de la perruque, il y a, tu sais, je veux dire, il y a des éventails, il y a du chiffon, en fait, au mètre carré. Au bazar de la charité, il y a des bijoux très apparents aussi pour montrer à quelle classe sociale on appartient. Effectivement, on est là pour être vu. C'est une parade, en fait. C'est ça que les journaux français vont commencer à mettre en évidence. C'est le fait que, est-ce que les gens étaient vraiment là pour les pauvres ou est-ce qu'on est là justement pour parader notre richesse puis essayer de montrer qui est le meilleur dans ses valeurs humaines parmi les riches? C'est un peu ça. Et c'est sûr que pour comment l'incendie s'est déclenché, est-ce que justement, comme tu dis, c'est comme fermé un peu, c'est comme une tente et tout ça. Est-ce qu'il y a une bougie? Est-ce qu'il y a une lampe à l'huile ou quelque chose qui aurait déclenché l'incendie? C'est un peu difficile, honnêtement, de le savoir. Ce qu'on sait, c'est que ça prend feu très vite les gens étant très compactés à l'intérieur, parce que c'est ça, il y a comme vraiment beaucoup de monde qui veulent être vus et se voir. Puis, oh, bonjour! Hein? Oh mon Dieu, mais c'est quoi cette broche? Où votre mari a-t-il fait fortune cette année? Bon, tu vois un peu le genre. Disons que, tu sais, il y a une grosse parade, là. Et voilà, le feu prend, le feu amène la fumée, les gens n'arrivent pas à voir, les gens, on suspecte qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts asphyxiés, en fait, aussi. Ben là, quand les gens commencent à comprendre qu'ils ont de la difficulté à sortir de là, ben c'est ça, c'est la bousculade, les gens se piétinent. Les femmes avec les grosses robes sont désavantagées parce que, tu sais, c'est facile de piler sur la crinoline, sur la robe, sur le tissu, mais aussi si le feu prend après ça, ben, tu sais, je veux dire, tu flambes d'un coup sec. Et là, c'est là où c'est difficile, des fois, pour les historiens de faire la part des choses. C'est, est-ce que les témoignages dans les journaux sont des vrais témoignages ou si on a. Ben, c'est devenu tellement littéraire, cette histoire-là. C'est devenu un exercice de littérature, là, de décrire les pauvres femmes qui s'embrasent. Tu sais, je dirais, bon, les couples séparés, mais en même temps, dire, ben, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est une punition aussi divine parce qu'ils sont trop riches et que, ben, voilà, tu sais, je veux dire, ils ont été punis d'une certaine façon. Donc, il y a certains journaux qui vont plus aller vers ça. Mais au final, ça amène quand même une très grande discussion sur le fait que, ben, tu sais, les femmes pourraient être utiles autrement à la société qu'avoir à se présenter comme ça dans ces bazars-là pour montrer qu'elles aident les pauvres. Est-ce qu'on pourrait pas les utiliser mieux que ça, en fait? Mais tu sais, t'étais à une époque où, du côté de l'Angleterre, ben là, les suffragettes ont all the way, tu sais, je veux dire, aux États-Unis aussi, tu sais, le rôle des femmes, le féminisme est de plus en plus présent. En France, il a été retardé quand même un peu, mais les discussions sont là. Et c'est là où l'événement devient peut-être un peu plus intéressant. Et le fait que, bon, on est au 19e siècle, on calcule peut-être un peu mieux, c'est sûr qu'ils vont décrire les squelettes que les familles vont essayer d'identifier, ou est-ce qu'il y a un bout de bijou sur un squelette, ah ben ça, c'est ma fille. Puis il y a des familles qui se seraient engueulées pour récupérer un squelette parce que les deux disaient que c'était leur fille, parce que c'est important d'avoir le corps pour des funérailles. Pas de corps, pas de deuil, pas de paradis, d'une certaine façon. Il y a eu des grosses chicanes aussi dans les jours qui ont suivi sur la question du rapatriement des corps ou de ce qui en restait. Parce qu'on s'entend que c'est un brasier. Là, il y a des gens qui ont été incinérés sur place. Voilà, le bazar de charité entre dans une espèce d'univers où un fait divers devient un sujet de discussion sur la condition féminine dans les journaux. Donc ça, du point de vue
de l'histoire... Un incendie féministe, j'adore ça.
Ouais, genre... Mais c'est ça, puis on a les chiffres, on sait qu'il y a à peu près 121 femmes qui seraient décédées, peut-être 6 hommes, fait que tu sais, je veux dire, c'est pas... Ça amène aussi toute cette idée-là, quand on sait que les hommes sont sortis plus vite, pourquoi les femmes... Bon, il y a la question des vêtements, mais il y a le fait que, est-ce qu'on a voulu les aider, ces femmes-là? Est-ce que les hommes se sont dit, ah, ben ma femme a juste à mourir, moi je sauve ma peau, tu sais? Il y a eu toutes sortes de discussions, en fait. C'est très riche, en fait, dans les journaux, et ça se trouve facilement en ligne, en fait, c'est tous ces témoignages qui sont très abondants sur le bazar de la charité.
Écoute, merci Evelyne. Là, je sais qu'on aurait pu parler de plein d'autres incendies aussi parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont marqué l'histoire, mais on va s'arrêter ici et on va passer à notre minute d'histoire sexy. Donc, cette minute d'histoire sexy est présentée par Eros et compagnie et aujourd'hui, Evelyne, nous allons faire l'histoire du... cunnilingus.
Ah, tant qu'à faire la fellation, allons de l'autre côté.
Eh oui! J'espère que tu vas me raconter que c'est comme un truc rituel dans une religion ancienne ou quelque chose du genre.
Et non, là, je t'amène ailleurs. En fait, je veux plus t'amener dans le fait que Orient-Occident, pas la même affaire. Parce que le cunnilingus, enfin, on devrait dire l'inctus, parce que c'est liché, mais en tout cas, à un moment donné, il y a comme eu des problèmes de
langage.
Traduction, de langage, du latin jusqu'à n'importe quelle langue par la suite. Mais c'est sûr que, je veux dire, les sources grecques, les sources romaines en parlent, et même si à Pompéi, on a les premières représentations imagées d'un cunnilingus dans les maisons de prostitution, ben voilà, dans le monde romain, ça reste que c'est vu comme un acte dégradant qui devrait être réservé, en fait, aux lesbiennes et au monde des prostituées ou aux esclaves sexuels aussi. Ça veut dire que, tu sais, si madame, dans la maison, s'emmerde, puis qu'elle a un esclave, puis que monsieur est pas là, puis que là, elle a envie d'un peu de plaisir, l'esclave, lui, peut faire le cunnilingus, peut s'abaisser à cet acte-là. Mais dans le couple, dans le monde gréco-romain, c'est vu comme un acte dégradant, contrairement à la fellation. Pourquoi s'abaisser à faire quelque chose comme ça. Et imagine au Moyen-Âge, quand l'Église arrive là-dedans, je veux dire, c'est un acte qui peut mener à l'enfer.
Mais oui,
et, je veux dire, à l'époque de l'incendie de Londres, dont on vient de parler, il y a un lien, mais au 17e siècle en Angleterre, c'était un crime et on pouvait aller en prison si jamais on était surpris en train de faire un cunnilingus. Alors, tu sais, ça a même été criminel, en fait, en Angleterre au 17e siècle, de pratiquer le cunnilingus.
Sans mots. Encore une fois, sans mots. Absolument sans mots. Ça n'a pas d'allure. J'espère que cette loi-là a été comme amendée. Là. J'espère qu'elle n'est pas encore
en vigueur. Ça a été 16e, 17e siècle à peu près pour le côté criminel du cunnilingus. Mais tu sais, on s'entend que ça a été très long avant que le plaisir féminin, ça va avec l'idée du plaisir féminin dans le monde occidental, judéo-chrétien, tu sais, soit ramené à l'avant-plan. Alors que ça, s'en va en Orient. Encore une fois. Les plus anciens textes qui parlent du cunnilingus en parlent comme quelque chose d'excellent pour la santé, pour la qualité de la peau, pour la détente. Et ce sont les sources chinoises et plus tard indiennes. Alors, la Chine, encore une fois, avec l'anneau peignien, avec tout ce que tu veux, qui, du point de vue du sexe, est très...
très libéré.
Le Japon aussi, l'Asie, là-dessus, la sexualité, ça fait partie de la santé globale. Et tout ce qui peut amener une détente, et donc l'orgasme par le cunnilingus est tout aussi acceptable que s'il est fait au doigt ou autre chose, c'est vu comme étant un facteur de bonne santé pour les femmes.
Donc, deux perceptions.
Et en Inde aussi, on va, justement, quand on va aborder, c'est pas juste le Kama Sutra, c'est l'idée que, du moins, la stimulation du clitoris, on va aller vers ça, tu sais, quand on regarde les effets chez la femme après, il n'y a que des bienfaits. Alors, au lieu d'être démonisé, il est, sans dire recommandé, fait partie des actes sexuels qui sont jugés sains. Pour une bonne santé. Alors, on voit encore une fois cette espèce de séparation idéologique par rapport à la sexualité entre l'Orient et l'Occident.
Encore, toujours. On dirait que c'est tout le temps l'inverse. Il y en a un qui dit quelque chose, l'autre dit le contraire, juste pour se chicaner. Comme deux frères, on dirait.
Comme Justin Trudeau et Xi Jinping.
Donc, on vous rappelle que vous pouvez aller sur le site d'Eros et compagnie et utiliser le code promo HISTOIRE15 pour tous vos achats coquins. Et sinon, Evelyne, merci beaucoup d'avoir parlé d'incendie avec moi.
Écoute, ça m'a fait plaisir, mais j'étais encore à dire que là, je m'attendais. J'ai dit, elle a choisi le sujet. J'ai dit, c'est parce qu'elle a lu là-dessus, puis elle va me sortir plein d'anecdotes qu'elle a lues dans des...
Rien. Non, je connaissais rien. C'était vraiment un sujet que je voulais approfondir.
Je confirme que c'est l'épisode où tu as eu les yeux les plus grands pendant tout l'épisode, où j'ai senti que j'étais devant une élève qui apprenait plein de choses nouvelles.
Mais non, c'était fantastique. Parce que honnêtement, le feu me fait super peur. Genre, passer au feu, je pense que c'est quelque chose qui me stresse le plus parce que tu peux rien faire à part attendre que ce soit fini. Tu sais, un coup qu'il y a un feu, tu peux rien faire. Fait qu'on dirait, moi, ça me stresse aujourd'hui avec tout qu'est-ce qu'on a. J'ose même pas imaginer, là, 400 ans, comment tu dealais ça. Et très mal, visiblement. C'est ce que j'ai appris.
Tant qu'on n'aura pas l'essence, les véhicules à essence, bon, à un moment donné, voir les chevaux, mais un cheval qui traîne des barrideaux, s'il part, le mort aux dents, il prend puis qu'il se met à courir et tout ça, c'est pas plus efficace.
Non, c'est ça, c'est donc, pas plus avancé.
Ouais, non, les services de pompiers, je te dirais que ça a pris vraiment l'entre-deux-guerres que ça commence à avoir du bon sens. Là. Ouais.
Oh, crément, quand même, on n'est pas rendu. Fait qu'en attendant, là, allez visiter votre caserne de quartier, là. Allez poser des questions à vos pompiers. Evelyne, merci. Puis on se dit
bon plaisir.
À très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye!
À bientôt!